Deuxième étape de notre balade du jour au Crozet, village de caractère du nord-ouest de la Loire. Nous retrouvons Alain Fromageau aujourd'hui dans la tour à bec du village. Puis nous évoquerons dans un second temps le cas de Mario Monnier, un des personnages forts de la cité. Mais intéressons-nous d'abord, si vous le voulez bien, à la tour à bec du Crozet.
Voilà, c'est assez sympa.
Magnifiques hortensias.
Ah ben il faut faire des photos, hein. Il y a des lieux qui sont magiques. Donc vous comprenez mieux pourquoi je vous ai amené dans cet endroit qui est assez sympathique. Ça nous permet de voir deux choses, de découvrir effectivement cette fameuse tour à bec dont je vous ai parlé à l'instant. Alors pourquoi tour à bec? Eh bien là vous avez devant vous un petit panneau donc didactique où on voit effectivement cette conjugaison de la forme tronconique qu'on a, hein, qui est assez courante au niveau de toutes les tours, et puis avec l'apport de cette forme triangulée qui se justifie de deux façons. Donc il y a effectivement, on pense bien sûr au renforcement de la paroi, qui est plus important à ce niveau-là. Mais imaginez-vous être le défenseur de cette tour en haut. Vous avez un angle de vue bien meilleur par rapport à un éventuel assaillant que le côté curviligne d'une tour tronconique. Mmh. Donc vous voyez, essayez de... Ouais, on n'est pas dans les game players, mais tout comme. Donc cette fameuse tour à bec. Et alors après, l'angle, on le voit très bien quand on pénètre. Vous voyez, on est devant... On a ce bec. Et puis, eh bien, ça, faut se ramener, donc on est au 13e, c'est l'époque des catapultes. D'autant plus que côté, on va dire, mont de la Madeleine, on gagne très vite des mètres. Donc par rapport à des fortifications, elles étaient certainement beaucoup plus vulnérables. Donc ils ont renforcé leurs moyens de défense par, effectivement, ces becs dont l'un subsiste sur cette tour. C'est une des seules qui présente cette architecture au niveau du département de la Loire. Alors, le Vauban, donc, qui est un peu le spécialiste des fortifications, avait retenu ce principe dans de nombreux endroits là où il a eu à œuvrer. Avant de quitter ce lieu, eh bien, j'aurais un petit mot sur... On a un très beau puits. Alors après, eh bien, on peut remarquer sa margelle monolithique, ça c'est une chose. Mais un petit détail qui a quand même son intérêt, vous l'avez remarqué, on est sur les hauteurs au niveau du Crozet. Même si on est à 400, 450, ce n'est pas énorme. On le verra d'ailleurs en fin de parcours. On a une vue sur la plaine de la Loire, sur donc le Bourbonnais et le Brionnais. Et à l'époque, c'était des positions très intéressantes, puisqu'on n'avait pas les satellites, pas encore les drones. Donc la surveillance se faisait à l'œil nu. D'autant plus que l'ennemi était plutôt en face, quoi. Eh bien, il y avait déjà une première raison de s'intéresser à ce lieu pour s'y établir. Mais quelque chose d'incontournable, c'était la présence de l'eau. Pour les hommes, bien sûr, et pour les bêtes. Et là, au Crozet, phénomène, on va dire, hydrologique, géologique, on a de l'eau quasiment partout et à très faible profondeur. Et quelle que soit la période, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et on verra, au cours de notre visite, de nombreux puits, peut-être moins mis en évidence que le puits de la cour de la Tour à Bec, mais sachez qu'effectivement, s'il y a eu de la vie très tôt au Crozet, c'est comme dans bon nombre d'endroits, c'est qu'il y avait l'eau. Cette présence d'eau est encore très profitable, puisqu'effectivement c'est un village excessivement fleuri, et qui dit fleur, dit quand même un minimum d'arrosage, surtout dans les périodes un petit peu caniculaires. Donc la municipalité a fait installer de nombreux systèmes pour pouvoir utiliser cette eau et ne pas se retrouver avec des factures trop importantes.
Et là, d'où la présence des hortensias qui aiment beaucoup l'eau.
Exactement. Donc là, on ne peut pas ne pas voir ces beaux hortensias. Les touristes qui sont de passage au Crozet, je dirais, ça fait partie des choses qu'ils remarquent. Certains, d'ailleurs, ont envie d'en ramasser pour faire du bouturage, peut-être. C'est pas dit qu'ils obtiennent les mêmes résultats.
Alors, on est sur la place principale, là, j'imagine.
Oui, je vous ai parlé de Mario Monnier, donc on est sur la place Mario Monnier. Alors là, juste un petit retour en arrière, n'imaginez pas que cette place, qui est somme toute assez petite, mais au moment de l'âge d'or du Crozet, on va situer ça donc 13e, 14e siècle, il y avait des places, on retrouvera des noms, place du Terrail, place du Château. Cette place du Mario Monnier n'existait pas parce que les maisons étaient quasiment mitoyennes. Tenez-vous bien, aujourd'hui, en intramuros, je pense que ça ne doit pas excéder 60 habitants. Le village par lui-même, c'est autour de 280 personnes sur toute la commune. Mais ramené à la période de l'âge d'or, c'était plus de 700 personnes qui vivaient ici. Ça nous est très facile d'imaginer qu'il n'y avait pas de la place pour les places. Et cette place a été, on va dire, créée assez récemment, au moment où effectivement le Creuset a commencé à prendre conscience de son maintien, de son patrimoine. Et il y avait des maisons bien, qui, effectivement, malheureusement, n'avaient pas eu suffisamment de soins et qui étaient en mauvais état. Il a été jugé préférable de les faire disparaître au profit de cette place qui a un joli caractère, qui met effectivement en avant cette seconde maison à pans de bois. Et puis surtout, derrière nous, ce qu'on appelle la halle de la cordouannerie. Quoi. Pour, on va dire, avec un petit peu de chance, les gens pensent au cuir. Cordoue, hein, Espagne, la patrie du cuir, et cette halle de la cordouannerie avec ses trois ouvertures en demi-cintre est probablement, à mes yeux, ce qui symbolise le plus le côté commerçant du village. On n'a pas parlé de château, on n'en verra d'ailleurs pas, il y en a eu un, mais aujourd'hui il a disparu, je vous dirai pourquoi ou comment surtout. Mais cette halle de la cordouannerie symbolise totalement que le Creuset avait une activité excessivement commerçante. D'où les richesses, d'où la protection, donc ces fameuses fortifications. Mais quand on parlait commerce à la fin du Moyen-Âge et encore à la période Renaissance, c'était la notion de privilège. Et effectivement, quand le Creuset a basculé en terre de France, les privilèges n'ont pas été gommés, mais plutôt augmentés. Donc c'était un village de commerçants. Donc là, on a sous nos yeux la halle de la cordouannerie. Ça peut surprendre une telle surface dédiée à cette matière, le cuir. Mais le cuir, c'est grosso modo à l'époque l'équivalent de nos plastiques ou de nos matières synthétiques d'aujourd'hui. Quoi. Donc très belle rénovation. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de découvrir l'intérieur de cette halle. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a la chance d'avoir une artiste peintre, Sylvie Momère-Gaudière, qui a posé, on va dire, à la fois ses crayons et ses pinceaux.
Nous retrouverons Sylvie Momère-Gaudière dans notre prochain épisode de la balade du jour au Creuset. Vous découvrirez également lors de cet épisode d'autres secrets concernant l'histoire du village de 284 habitants. Donc rendez-vous demain pour la suite sur RVR.